Pour nous, c'est important que des musées qui ont l'appellation Musée de France, donc ça veut dire collection publique, inaliénable, imprescriptible, trésor national, puissent avoir une visibilité plus importante. Et dans le maillage du territoire, c'est important que des musées de ce type soient rénovés, puissent accueillir du public dans des très bonnes conditions. Et là, il s'agit d'une très belle réalisation.
Dans notre département, il y en a d'autres, comme celui-ci, ou vraiment il demeure le seul maintenant ?
Archéologie de ce type, pour moi, c'est le seul, mais il pourrait y en avoir d'autres. Il y a 8 musées de France dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. En partant de Quinçon avec le musée de la préhistoire, Digne qui est plus un musée de territoire, il pourrait y avoir Forcalquier, mais pour l'instant c'est confidentiel. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de musées. Il y a Riez aussi où il peut y avoir un projet. Voilà.
Vous dites Forcalquier confidentiel, vous êtes en train de le dire à un micro d'une radio quand même.
Non, mais parce que pour l'instant c'est un musée qui n'est pas tout le temps ouvert, qui pourrait très bien. Après c'est les volontés municipales qui font ça. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce musée-là aujourd'hui ?
La mise en espace, le fait qu'il y ait à la fois une part interactive, même si elle est à compléter encore, c'est-à-dire d'explication, de remise en situation sur le terrain, et une très belle mise en espace dans un espace qui est petit et contraint, mais on peut bien se rendre compte de ce que pouvait être ce trésor archéologique qui a été retrouvé.
La luminosité semble jouer un rôle essentiel également.
Oui, mais de toute façon, dans les musées, il y a des contraintes de conservation, pas trop sur les objets archéologiques, mais les contraintes architecturales ont fait qu'il y a un espace assez sombre, mais il y a un éclairage qui est très ciblé sur les objets. Et l'architecture de la muséographie fait que ces têtes sur le chapiteau sont bien reconstituées dans l'esprit de ce qu'était une nécropole avant. Voilà.
La possibilité également de visionner des documents, de les consulter, ça c'est vraiment hors norme.
Oui, ça c'est très bien. C'est ce qui se fait de plus en plus maintenant dans les musées. Hein. Toutes ces tablettes interactives, des vidéos qui expliquent, et d'autant plus avec l'archéologie, on peut maintenant, avec tous les systèmes de réalité augmentée, montrer comment la reconstitution de lieux où on n'a que des fragments.
Les gens, ils vont aimer, à votre avis ?
Oui, je pense.
Franck Pérard, la municipalité offre à sa population un magnifique ouvrage aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est un bel espace culturel. Et puis, comme ça a été dit par Monsieur le maire Daniel Espagnou, c'est un espace qui va allier la tradition et la modernité. La tradition, l'histoire, le patrimoine de la ville de Sisteron, bien sûr, à travers deux espaces. Un premier espace qui est le musée archéologique et qui va traduire l'époque romaine. Et puis un deuxième espace qui est pas moins important puisque c'est l'espace fonds anciens et qui, lui, va présenter l'ensemble des fonds anciens depuis le Xe siècle, grosso modo, jusqu'à l'époque moderne, c'est-à-dire la Révolution française. Et dans cet espace fonds anciens, il est important de dire que Sisteron dispose d'un fonds qui est remarquable, qui est probablement l'un des plus riches de Provence, puisque au XIIIe et XIVe siècle à Sisteron, il y avait à peu près autant d'habitants que dans la ville de Nice. C'est dire l'importance de la population à cette époque. Donc vous avez raison de le souligner, ça a été un travail long, hein, sur plusieurs années. Et j'oublie pas d'ailleurs Sylvie Fritz, mon prédécesseur sur ce poste qui a initié le projet. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier du travail qui a été accompli, de ce qui est restitué au Sisteronais. Et ce que je souhaite, ce que j'espère, c'était le projet du maire Daniel Espagnou, c'est de faire de ce centre culturel un véritable poumon au centre ancien pour drainer une population, pour drainer des touristes et pour, je dirais, participer à la revitalisation du centre ancien.
Au Sisteronais maintenant, de se l'approprier, ce lieu ?
Mais pas qu'au Sisteronais d'ailleurs, hein. Au Sisteronais évidemment, bien sûr, puisque c'est à eux, hein. C'est le produit en partie de leurs impôts, c'est aussi leur histoire, puisque, comme je vous le disais précédemment, c'est 2000 ans d'histoire à peu près. Donc effectivement, nous souhaitons que les Sisteronais se l'approprient, et c'est dans ce cadre-là que nous proposons des tarifs qui sont particulièrement attractifs, puisque le prix d'entrée pour l'ensemble de l'espace est de 3 euros pour les adultes. Et on a même pris la décision d'établir un pass pour les Sisteronais, un pass à hauteur de 6 euros à l'année. C'est dire à quel point on a fait un effort sur le tarif pour que tout le monde puisse s'approprier ce lieu. Alors bien sûr, les Sisteronais, mais je dirais que nous avons la chance d'avoir un musée qui est labellisé Musée de France et qu'à ce titre-là, il apparaîtra dans l'ensemble des guides, dans l'ensemble des productions écrites. Et justement, notre objectif, c'est de drainer une autre population de touristes, de chercheurs, de gens extrêmement intéressés par cette période. Et voilà, donc c'est pas que pour les Sisteronais.
65 000 personnes qui sont allées visiter l'année dernière la citadelle. Ces 65 000 personnes-là pourraient descendre également ici.
Oui, 65 000 personnes, bien sûr. Alors, on n'a pas d'objectif chiffré, hein. On va rester modeste puisqu'on l'ouvre et qu'on n'a pas eu la politique de communication qui allait avec le lieu. la politique de communication, c'est être présent dans des guides comme le guide Michelin, par exemple. Le jour où le musée labellisé Musée de France d'Ornano est référencé dans le guide Michelin, immédiatement, on va avoir mécaniquement une affluence de touristes. On l'a vu avec la cathédrale. Grosso modo, on avait 25-28 000 visiteurs. On a obtenu une étoile, on est passé dans le guide Michelin l'année dernière, on est passé à plus de 40 000 visiteurs. Donc maintenant, et c'est dans cet esprit-là qu'il y a une médiatrice scientifique et culturelle qui a été nommée pour s'occuper du musée. Aujourd'hui, cet espace, il faut le faire vivre et il faut le commercialiser.
Quel sera le prochain point culturel, assistant ?
Oh là là, je crois qu'il faut déjà faire vivre celui-là, le finir, parce qu'il n'est pas complètement fini. Vous voyez, par exemple, ça a été dit tout à l'heure, sur la partie muséale, toute la partie virtualité, réalité augmentée, tout ça n'est pas livré, c'est commandé, ça arrivera avant la fin de l'année 2016. Donc ça va être un élément très important, parce que là, on aura la modernité au cœur de la tradition. Alors après, les projets... Bon, il y a tout l'espace d'exposition qu'il faut faire vivre. Dès le 30 juillet, on inaugure une belle exposition Monticelli. On travaille déjà sur la programmation pour l'année prochaine. On aura probablement une rétrospective autour de Ziem et probablement aussi autour de Cesso, toute sa période fauve avec 30 toiles qui n'ont jamais été exposées. Alors, on va déjà consolider cet espace. Avec Monsieur le maire, sous son impulsion, on a déjà d'autres projets, mais on va y aller mollo, hein, et on va prendre le temps de faire les choses correctement.